son hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Michel. Bonjour Michel.
Bonjour Irène.
Michel, vous êtes né le 2 avril à Menton, oui. Dans les années 1900.
Oui, enfin, c'était un petit peu avant, mais j'ai pas osé parce que
vous n'avez pas osé.
Oui, c'était d'accord. 1600.
Voilà, c'est bon, ça. Entre 1600 et 1900.
Voilà,
on va dire.
Ça faisait un petit peu trop quand même.
Donc, vous êtes né dans les Alpes-Maritimes, d'un
fait.
Père cuisinier, chef cuisinier, et d'une mère comptable. Vous m'avez dit que vous aviez une grand-mère qui était également chanteuse à l'Opéra de Bordeaux.
Tout à fait, oui.
Et un oncle du côté maternel qui chantait de l'opérette. Donc,
exactement.
Tout naturellement, vous étiez voué à la chanson.
Tout naturellement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une opportunité qui s'est posée à moi. Depuis tout petit, d'ailleurs, j'avais envie de chanter. Et je chantais,
alors,
déjà.
Pour nos auditeurs et nos auditrices, Michel est chanteur. Alors, je ne vous connaissais pas, je dois bien l'avouer. On m'a vivement recommandé de vous recevoir parce qu'il paraît que c'était un tort de ne pas vous connaître, que vous aviez de jolies chansons, que vous étiez une belle personne. C'est alors bien. J'ai voulu faire cette émission, mais justement pour vous faire découvrir à nos auditeurs et puis en premier lieu pour vous découvrir également, je l'avoue. Alors on va avoir plein de choses à vous demander parce qu'on ne vous connaît pas. Donc, Michel, vous m'avez dit que vous aviez appris le piano à l'âge de 5 ans.
Oui.
Et je vous vois aujourd'hui avec une guitare. Alors, le piano, ça a duré combien de temps?
Ça a duré 2-3 ans. Donc, c'était,
ah oui,
quand,
ça
même,
a été
c'était quand même assez
bref.
Assez bref. 4 ans exactement, oui. 4 ans exactement. La quatrième année était assez entrecoupée quand même d'impossibilité de la professeure, de la part de la professeure, de nous donner des cours. Mais par la suite, comme j'ai été dans cette période hippie, ce n'était plus le piano qui était à la mode, c'était la guitare. Donc la seule chose qui m'importunait, c'était de laisser tomber cette grosse chose qui était le piano pour trouver une guitare et pouvoir la promener partout avec moi.
Et alors la guitare, vous l'avez commencé à quel âge?
À une douzaine d'années à peu près.
Ah oui, jeune.
Ah oui, quand même, oui.
Vous aviez déjà les bases de solfège avec le piano, j'imagine?
Oui, bien sûr.
Oui, donc ça a été beaucoup plus simple. Vous avez pris des cours de guitare?
J'ai pris quand même des cours de guitare, oui. Mais je ne me considère pas comme un ultra-perfectionniste guitariste.
Oui, c'est plutôt l'instrument qui vous accompagne dans la chanson.
Oui, je dirais même plutôt c'est l'instrument qui me permet de faire des mélodies en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Voilà.
Justement, on va venir à ça. Mais pour l'instant, vous êtes encore un petit garçon, et j'aimerais découvrir ce petit garçon que vous avez été. Donc, vous avez grandi à Menton. Charmant, je n'en doute pas une seconde, Michel. Vous avez grandi à Menton. Vous êtes resté combien de temps à Menton?
Assez peu d'années, 4 ans.
Oui.
Voilà. C'est une moyenne de 4 ans, souvent.
Oui.
Voilà, où mes parents, ensuite, sont allés en Angleterre, à Londres.
Ah, donc vous avez grandi à Londres?
Oui.
Combien de temps vous
quelques
êtes resté?
Quelques années aussi, 3-4 ans aussi.
3-4 ans aussi.
C'est une période comme ça de 3-4 ans.
D'accord, ce sont des mandats, en fait.
Presque, oui.
C'est
mon père,
ça.
En tant que chef cuisinier, avait des mandats aussi dans la restauration, dans la haute restauration gastronomique.
Donc, vous avez beaucoup déménagé?
Il avait été un petit peu, oui.
Vous avez souffert de ça?
Non,
parce que
pas
quand
du
on
tout.
Déménage, on perd les petits copains qu'on se fait, surtout quand on est enfant, on a besoin d'un cadre de vie.
Non, on n'a pas tellement conscience de ça, mais je dirais, c'est un petit peu comme lorsque l'on va au restaurant, lorsque l'on change de plat. Est-ce que ça vous perturbe pour autant?
Alors, moi non, parce que je passe ma vie à manger, j'adore ça. Donc la voilà. Comparaison, là, sur le coup, effectivement.
Voilà. Non, c'est au contraire, c'est même un apprentissage. C'est
même un enrichissement.
Voilà, le mot, c'est un enrichissement. Pour, je me rends compte maintenant de cette richesse que j'ai pu avoir au fil des années, des rencontres que j'ai pu faire aussi. Peut-être des choses dont je ne me souviens plus, des amis. C'est vrai qu'au niveau amitié, je n'ai pas d'amis d'enfance de l'âge de 2-3 ans, comme peuvent l'avoir certaines personnes. Mais j'ai d'autres richesses, voilà. À chacun ses richesses.
Où est-ce que vous avez fait le collège et le lycée?
Alors, c'était plutôt à Bourges,
oui.
Dans le centre de la France.
Oui, dans le département du Cher.
Tout à fait, oui. Je crois que vous connaissez un petit peu,
d'ailleurs. Un petit peu, effectivement.
Et dont ma mère était originaire,
oui.
En pleine Sologne, où j'avais également une ancêtre qui jouait de la musique, enfin qui chantait aussi.
C'était pas George Sand, non, votre ancêtre là-bas.
Non, pas du tout, non. Mais comment dirais-je, donc cette ancêtre était italienne. Alors, c'est pour ça que peut-être j'aimais bien me parler aussi. Et donc, chanter.
Vos premières compositions, donc j'imagine, ont été faites pendant votre adolescence, donc à Bourges. Comment ça s'est passé, comment est venu ce désir d'écrire avant de chanter?
Je pense que ce désir d'écrire est surtout venu avec l'écoute. L'écoute de personnages qui m'ont marqué. Avant que je me mette à écrire, j'étais vraiment impressionné par Molière déjà. Molière, La Fontaine, les personnes que l'on apprend à l'école. Molière m'a perturbé, mais dans le bon sens, parce que je me suis dit, waouh, mais un gars qui écrit des choses comme ça, c'est fabuleux.
Vous étiez un gros lecteur ?
Non, j'étais plutôt un homme de théâtre, moi, mais
donc, sans prendre en faire. Donc, lecture sur quand même les œuvres classiques.
J'ai quand même lu, bien sûr, mais je m'intéresse quand même aux œuvres classiques, mais je ne suis pas quelqu'un qui a dévoré les livres, comme j'ai une de mes filles qui dévore les livres. Elle peut en lire un, au bout de 2 jours, c'est terminé, quoi. Donc là, non, pas à ce point-là. C'était pas la mode à cette époque-là aussi. On devait d'abord s'atteler à de bonnes lectures, à des lectures classiques, et sans trop en sortir. Voilà. Mais moi, je suis sorti un petit peu de ce classicisme par Molière, qui était un révolutionnaire dans son temps au niveau des pièces de théâtre, et un comique. Voilà. Parce que j'adore aussi le comique, l'humour. J'adore l'humour. C'est
Molière
important.
Est intemporel. Hein. Ses Ça pièces fait. Sont toujours à la mode.
Par la suite, j'ai plutôt une découverte justement dans ce côté humour par Fernand Reynaud, qui avait un côté piquant, acerbe, et ça me plaisait beaucoup, ça. Et là, je commençais à écrire déjà des choses qui me venaient. Mais bon, c'était pas franchement établi, ce que j'écrivais. Mais celui qui m'a donné l'envie d'avoir la plume, on pourrait dire, c'est Raymond Devos. Parce que Raymond Devos, c'est une personne qui
joue avec les mots,
qui sans dessus dessous joue avec les mots,
qui est respectueux des mots.
Et tout à fait. Et c'est fabuleux. J'ai vraiment eu cette passion pour l'œuvre qu'il a réalisée, parce que pour moi c'est un grand monsieur, c'était un grand monsieur et ça restera un grand monsieur toujours par ce qu'il a écrit.
Donc votre première chanson, vous aviez quel âge?
Première chanson, je crois que j'avais une quinzaine d'années. Mais bon, c'était un peu, c'était avec des consonances, j'irais un peu, si je devais me comparer, c'était un peu comme style téléphone, quoi, à cette époque-là, parce que ça marchait bien, c'était très bon, c'était...
Rock'n'roll.
Un peu rock'n'roll. Ah oui,
rock'n'roll, voilà, des années...
J'ai quand même une philosophie littéraire, on va dire classique, mais dans le rock'n'roll, voilà, transposée dans le rock'n'roll. J'aime le rock'n'roll, mais pas que.
Vous aviez 15 ans. Quel genre d'adolescent étiez-vous ? Vous étiez timide ?
Tous les artistes sont un peu timides.
Renfermés ?
Ça dépend avec qui.
Et avec les filles, comment ça se passait ?
Ah.
Comment était Michel à 15 ans avec les filles ? Ah. Avec les jeunes filles ?
Très gentil,
oui.
Très respectueux,
oui.
Un peu charmeur aussi.
Charmeur. Avec la guitare, déjà ?
Oh non, pas forcément.
Pas forcément ?
Non, non. Avec les mots aussi, déjà.
Avec les mots ? Donc ça marchait ? Avec
la poésie aussi, le romantisme.
Sentimental ?
Oui, il faut l'être, bien sûr. C'est important.
Vous l'êtes resté ?
Celui qui n'est pas sentimental, il ne vit pas. Il n'a pas la richesse de la vie.
Alors justement, on verra au cours de cette émission l'importance que vous donnez à l'amour dans vos chansons. J'aimerais savoir comment tout a démarré pour vous. Donc, vous avez 15 ans, vous faites une première chanson. Racontez-moi un petit peu ce parcours entre cette première chanson et votre premier passage sur scène, justement, dans ce festival mythique qui est le Printemps de Bourges.
Alors, pendant cette période-là, il y avait les fameux groupes qui se montaient, justement, un peu à l'image de ce groupe téléphone, comme je le disais tout à l'heure. On a monté beaucoup de groupes, tous les uns les autres. On montait des groupes dans des vieux garages, dans des vieilles salles désaffectées et tout.
Comment s'appelait le vôtre ?
C'était le groupe 68, groupe Démence. qui au départ avait un autre nom, mais les parents n'avaient pas apprécié ce nom donné. Donc j'avais fait une rectification avec l'accord des autres membres du groupe. Voilà. Et bon, ça a plus ou moins marché. Après, il y a des copines qui sont arrivées, qui ont préféré avoir leur copain à la maison ou autre chose. Et puis on a grandi tous aussi, on a évolué aussi. Donc on a voulu se donner une autre image, chacun de son côté. Voilà. De là, moi, j'ai continué à écrire un petit peu, mais c'était sans plus, sans intérêt vraiment particulier. C'était pour moi. Voilà.
Qu'est-ce que vous faisiez à côté à ce moment-là, quand vous aviez 18, 20 ans? Vous aviez terminé vos études?
Alors, j'ai, après le côté littéraire dans lequel je m'étais engagé, j'ai préféré m'engager vers une autre valeur qui, pour moi, était importante. Mais non pas, j'aurais très bien pu faire des études de médecine ou autre, mais je ne m'intéressais même pas à tout ça. Je voulais aller à la base. Je me suis rendu compte que dans les bases, c'est-à-dire les métiers qui sont comme aide-soignant ou infirmier et tout, il y a une demande de la part des gens. Je ne dis pas que les médecins sont loin de là de mauvaises augures, mais on est très près des gens. Et j'aime être près des personnes qui sont dans la souffrance, peut-être pour être dans la compassion et leur donner ce dont ils ont besoin. Je ne sais pas, c'est un petit peu délicat d'exprimer cela, mais j'aime bien aller vers les personnes quand ils sont dans la souffrance pour leur...
Donc vous avez...
Pour leur donner l'espoir.
Vous avez fait des études d'aide-soignant ?
Aussi, oui.
Et vous avez exercé ce métier ?
Tout à fait, oui, bien sûr.
D'accord. Mmh. Donc vous exerciez ce métier d'aide-soignant. Parallèlement à ça, vous avez continué à écrire des chansons.
Disons que ce métier me permettait aussi de faire de l'alimentaire.
Oui, voilà. Bien sûr.
Parce que la musique, il y a des millions de personnes qui font de la musique sur Terre et il y en a combien qui en vivent ?
Bien sûr.
Très peu. Voilà. Donc voilà, j'ai continué après, puis j'ai fait comme beaucoup de gens, parce qu'à cette époque-là, c'était aussi la mode, et puis ça nous permettait de gagner un peu d'argent aussi. J'ai fait du bal.
D'accord.
Dans un groupe de bal, en tant que chanteur, parfois guitariste, parfois batteur aussi.
Parce que toujours dans la région centre.
Toujours dans la région centre, oui.
Donc les baloches, dans tous les petits villages autour.
Oui. Oui, tout à fait, oui. Dans les parquets, où on s'installait avec les galères des installations. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que lorsque l'entrée se faisait, il y avait toujours un banc en première, juste devant la scène, où il y avait toujours des charmantes jeunes filles qui venaient s'installer, des groupies, oui, pour voir les chanteurs. Mais ça, c'est dans tous les groupes,
absolument.
Hein, ce n'est pas uniquement que nous, quoi. C'était dans tous les groupes, ça.
Et là, vous avez tourné combien d'années avec vos camarades sur les balles, comme ça ?
5-6 ans, à peu près.
Oui. C'était une période sympa ?
Très difficile. Très sympathique, mais très difficile.
Pourquoi difficile ?
Ah, parce que c'est la meilleure école. L'école de la rue pour un musicien, l'école du bal, c'est la meilleure des écoles. Quand je vois certains chanteurs ou musiciens qui veulent tout de suite faire de la grande scène, machin et tout, là, oh là 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 là, restons humbles et modestes. Parce que d'abord, le travail, ça fait au contact du public. Voilà. Et ça, c'est important. Et ce contact-là, il faut l'avoir d'une façon proche et on l'a dans ce genre d'endroit.
Alors, vous m'aviez indiqué que vous aviez gagné un prix.
Oui.
Dans ces années-là, avec FR3. Alors, parlez-nous, quel était ce prix ?
Il y avait un concours. Un concours que...
De chansons, donc.
De chansons, donc chanteurs et chansons. Et j'ai chanté une chanson pour France 3 qui représentait le Printemps de Bourges, le fameux festival du Printemps de Bourges. Et... Le gagnant gagnait se voyait le plaisir d'avoir déjà un groupe avec lui, s'il n'en avait pas, et de chanter sur une des scènes mythiques du Printemps de Bourges. Voilà.
Donc c'est ce qui vous est arrivé.
C'est ce qui m'est
arrivé. C'était en quelle année ?
C'était... je perds la mémoire, là. Je n'ai pas encore Alzheimer, je vous promets, quoique pas loin. Mais... c'était dans les années 70, 75, à peu près, oui.
Ouais, d'accord.
Dans ces zones-là.
Et alors là, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là ? Se dire, j'ai gagné, je vais passer sur une salle, dans une salle.
Ah, c'est fabuleux. Parce c'est que,
un mélange d'excitation, d'appréhension, je suppose.
Excitation, le trac, oui, déjà, le trac. C'est important, le trac. Hein,
bien
c'est
sûr.
Important. C'est de l'excitation, c'est certain, mais c'est le trac aussi. Et puis, Puis c'est vrai que se retrouver sur scène, et c'est là, je crois que j'ai de plus en plus compris que la scène, c'était quelque chose dans lequel j'étais addict. Je suis addict à la scène.
Et c'est ce jour-là que vous avez découvert cette addiction.
Oui,
avec ma propre interprétation, parce que j'avais
chanté une interprétation personnelle que j'avais écrite en plus.
Une de vos compositions. Voilà. Donc là, c'était encore une autre dimension par rapport au bal.
Ah, ça n'a rien à voir. Chanter les chansons des autres, c'est très bien. Chanter ses propres chansons et voir des personnes danser sur vos propres chansons, bouger sur vos propres chansons et vous applaudir et tout, waouh, ça n'a pas de prix.
Alors justement, je vous propose une première pause musicale et on va écouter une de vos compositions. Et il me semble savoir que c'est votre dernière composition et que c'est la première fois qu'on va entendre votre chanson puisqu'elle est extrêmement récente.
Oui, elle a été finie en studio hier.
Ah oui, voilà. Alors effectivement.
Et je vous avais promis, Irène, puisque nous avons bien entendu eu l'occasion de nous contacter pour cette interview, et puis je vous avais promis une exclusivité. Donc c'est une exclusivité, elle n'est même pas encore sur Facebook.
Bah écoutez, je suis très flattée. Merci beaucoup, Michel. On écoute.
Si tu restes, le soleil viendra dans la maison. Avec toi, je changerai les mots en émotions pour que tu sois comme un rêve d'une nouvelle chanson. Si tu restes, si tu restes, je bâtirai des palais de diamants. Avec toi, je serai le meilleur des amants, pour que tu sois la principale actrice de ton roman. Si tu restes, si tu restes, je laisserai aller tes cheveux dans le vent. Avec toi, ce sera toujours comme un nouveau printemps, pour que tu sois la plus belle au sourire si touchant. Si tu restes, si tu restes, je donnerai de la couleur au noir et blanc. Avec toi, je ferai une montagne de rêves pour les petits enfants, pour que tu sois le parfum des fleurs de tous les temps. Si tu restes, si tu restes, je veux de toi un bouquet de passion. Avec toi, je partirai pour toute l'émission, pour que tu sois dans le bonheur, sans rémission. Si tu restes, si tu restes, si tu restes, je planterai pour toi la rose des vents. Avec toi, j'éblouirai tes pas à chaque instant, pour que tu sois ma première pensée au matin levant. Si tu restes, si tu restes, je mettrai dans ta main tous les plus beaux baisers. Avec toi, je ferai une loi pour te mériter, pour que tu sois à chaque instant fier du verbe aimer. Si tu restes, si tu restes, si tu restes, si tu restes,
si tu restes, c'est le titre de la chanson.
C'est le titre, oui.
Merci beaucoup, Michel.
Merci.
Je pense que j'aurai envie de la réécouter en fin d'émission, celle-ci.
C'est une prière.
C'est une prière ?
En quelque sorte, oui, on pourrait prendre ça. Il y a à l'heure actuelle beaucoup de personnes qui se séparent, beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans les couples. Puis il y en a un qui peut-être a envie de dire autre chose. Il dit, mais on pourrait peut-être trouver des solutions, même en allant. Parce que bâtir des palais de diamants, c'est quand même c'est impossible à faire. C'est justement faire l'impossible pour qu'elle reste.
C'est l'amoureux qui parle là.
Oui, c'est aussi une observation. Il n'y a pas que moi, mais bien sûr. Mais je suis très dans la sensibilité. Oui, ça, j'ai une sensibilité assez exacerbée. Oui, mais c'est bien.
Comme beaucoup d'artistes.
Paraît-il, oui.
Comme je pense tous les artistes. Je pense d'ailleurs qu'il faut en avoir une pour être un artiste.
Je crois.
Alors, qu'est-ce que vous donne cette ouverture de scène ? Je reviens donc à ce qu'on disait juste avant cette pause musicale bien sympathique. Vous êtes sur scène au Printemps de Bourges. Est-ce que, par la suite, cette scène vous donne des ouvertures professionnelles ?
Alors, oui, déjà, j'ai fait des maquettes de disques. Voilà. Donc, c'était important pour moi de faire des maquettes de disques. Et je suis allé à Paris, où j'ai fait 3-4 maquettes de disques. Et avec les musiciens, des musiciens qui étaient un peu connus, ils faisaient partie du groupe des Gibson Brothers. C'était l'époque des années disco et tout. Et l'enregistrement s'est très bien passé. Et puis après, bon, il y a eu des galères de musiciens, comme tous les musiciens, de changement, d'arrêt, de reprendre d'autres groupes, d'être avec d'autres musiciens et tout, voilà. Et les années passent.
Et alors, pendant ces années, vous laissez un petit peu de côté ces compositions personnelles ?
Peut-être au niveau musical, oui, mais pas au niveau de l'écriture. J'aime écrire.
Vous continuez.
J'aime écrire, et puis dès que il m'arrive, j'ai une idée, il me faut du papier. J'aime bien écrire sur le papier. Il m'arrive parfois d'écrire sur l'ordinateur, autre chose, mais j'aime bien écrire sur le papier. Donc il me faut du papier pour écrire. Et voilà,
Et alors, jusqu'à un accident de voiture.
Oui, voilà.
Quel âge vous avez ?
Moi, j'avais 22 ans.
22 ans, voilà. Donc c'est très très jeune. C'est un accident grave.
Très grave, oui.
Qu'est-ce qui ressort psychologiquement de cet accident ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? Comment vous voyez votre avenir à ce moment-là ? Est-ce que vous avez des séquelles physiques ?
Oui, voilà, déjà. J'aurais pu chanter la fameuse chanson. J'ai un petit peu mal partout. Donc, voilà. Mais c'est vrai que oui, j'étais cassé de tous les côtés. Ça m'a fait changer beaucoup de choses, oui. Ça m'a donné l'envie. D'ailleurs, après, dès que j'ai pu marcher, la seule première chose que j'ai faite, je suis allé dans un magasin de musique. On m'a emmené dans un magasin de musique. J'ai acheté une autre guitare parce que la mienne était un petit peu pas assez bien et tout. Je voulais une autre guitare. Donc, vous voyez, c'est un petit peu. Vous savez, Irène, lorsqu'on a quelque chose qui s'abandonne en soi, comme cet accident qui vous met dans un état assez difficile physiquement, on se raccroche à certaines choses. Je me suis raccroché à la musique. Et pour moi, la musique, c'était la guitare, c'était un peu le piano aussi, parce qu'il y avait toujours un piano chez moi.
La convalescence a été longue ?
2 ans.
2 ans. Donc, c'est énorme. Donc, ces 2 ans, vous les occupez comment ? Au piano ? À la guitare ?
Un petit peu, oui, mais j'ai préféré la guitare, oui. Écrire, surtout. Moins composer. La composition est venue par la suite.
D'accord.
Mais
toujours,
on
revient à l'écriture.
Oui, toujours, oui.
Alors, ces 2 ans, c'est très long. Vous vous raccrochez à la musique, qui est quand même, au départ, l'essentiel de votre vie. J'aimerais que vous nous donniez vos sensations de l'époque, votre vision de l'époque, vos projets. Quand on a un accident terrible de la circulation comme ça, où on est obligé de mettre sa vie entre parenthèses pendant 2 ans, c'est très très long, 2 ans surtout à 22 ans, où c'est l'âge où on a envie de bouffer la vie et où on la bouffe. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous êtes triste ? Est-ce que vous vous dites « je vais m'en sortir et je vais bouffer la vie » ? Quels sont vos projets ? Comment vous êtes à ce moment-là ?
M'en sortir, oui, ça, c'était pas un problème. Je peux vous citer une petite anecdote. C'est lorsque j'étais allongé sur le lit d'hôpital, où on ne savait pas encore si je pourrais remarcher. Et il y a le prêtre de l'hôpital qui est venu pour m'apporter un livre d'un kiné qui avait fait le tour du monde en chaise roulante et tout. Je n'ai jamais ouvert ce livre. Jamais.
Oui, c'était pas pour vous.
Jamais.
Parce
c'était
que
pas
vous,
pour
vous alliez remarcher.
Par contre, un soir ou un après-midi, je ne sais plus, ou un soir à la télévision, j'ai vu une émission de chanteurs qui chantaient dans une discothèque. Puis j'ai dit, mais c'est ça, voilà, faut que je reparte là. Et puis, c'était au mois d'octobre, ça. Fin octobre, j'ai dit, le 31 décembre, je serai en train de danser dans une discothèque. Alors tout le monde m'a dit, bah, oui, bien sûr, oui, mais oui, oui, tout le monde, personne n'y croyait.
Oui, on disait pour vous consoler.
Voilà, et j'ai une amie qui pourrait en témoigner. Le 31 décembre, j'étais avec des béquilles, certes, je ne pouvais pas danser normalement, certes, mais j'étais dans une discothèque, j'avais gagné mon pari.
Et vous avez fait le réveillon comme vous l'aviez prévu.
Tout à fait. Donc, j'ai voulu me battre pour me remettre d'aplomb et puis continuer. Alors, évidemment, il y avait des moments où ce n'était pas toujours bien, parce qu'on ne peut pas toujours être bien dans ces cas-là, après un tel choc.
Vous êtes toujours à Bourges dans ces années-là ?
Oui, mais j'en suis reparti après, pour, assez vite, pour, au bout de ces 2 ans, pour aller à Paris.
D'accord. Mm-hmm. Quels objectifs étaient les vôtres à ce moment-là ? Pourquoi vous partez à Paris ?
J'avais toujours la musique en tête.
Toujours.
Me rapprocher de Paris, c'était me rapprocher des studios de l'enregistrement, c'était me rapprocher des musiciens. Et là, je tombe sur une amie qui avait sa meilleure copine, qui était chanteuse. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Avec des musiciens, ok, d'accord. Mais je ne me voyais pas encore chanter, je ne me voyais pas reprendre la chanson, pas comme ça. Je n'avais pas encore vraiment l'intérêt pour cela. Et puis elle me dit, ah tiens, je dois passer sur une scène à Paris, tu ne pourrais pas m'écrire une chanson. J'ai dit oui, alors j'ai appris à la connaître et puis je lui ai écrit une chanson. Mais pas la musique, c'est son musicien qui a écrit la musique. Puis elle me dit, tu viendras me voir la chanter ? Ben, je dis oui, ok. Et c'est là où je suis rentré à l'Olympia pour la première fois par l'entrée des artistes. Alors, est-ce que c'était un signe ? Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le cas. Mais je compte bien y retourner un jour. Et je suis rentré par l'entrée des artistes pour ensuite aller m'asseoir et écouter la première chanson qui était interprétée, qui était celle que j'avais écrite. C'est quand même, c'est énorme, quoi. C'est fabuleux, quoi. C'est pour quelqu'un comme ça, c'est quand on, ce que l'on écrit sur un papier, l'entendre chanter dans un endroit mythique comme ça, c'est...
Oui, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez énorme.
C'est drôle, ça fait quelque chose. Oui.
Qu'est-ce qui est plus important pour vous, justement, au niveau d'écrire une chanson, de la chanter vous ou de l'entendre chanter par quelqu'un d'autre ?
Ça dépend de ce que j'écris. Justement, parce que je sais, j'arrive à écrire, et je l'ai déjà prouvé, pour d'autres personnes.
Vous préférez ?
Non, c'est pas...
Les deux.
Il faut que je connaisse la personne, par contre. Je ne peux pas écrire une personne comme ça sans la connaître.
Une chanson comme ça, oui.
Il faut ressentir la personne. Oui, j'ai besoin d'aller un petit peu dans
son... Pour que les paroles puissent coller à son univers.
J'ai un petit peu besoin d'aller dans son univers pour savoir ce qu'elle ressent, ses ressentis, ses envies, tout ce qu'elle est en réalité, pour mettre des mots sur sa peau. Voilà. Et les mettre en musique, si possible.
Vous restez plusieurs mois à Paris ?
Plusieurs années.
Plusieurs années.
Plusieurs années, oui.
Et après, vous repartez sur la Côte d'Azur ?
Oui, parce que Paris, c'est bien, c'est très bien, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais le soleil me manquait. Le soleil de ma Côte d'Azur, au départ, me manquait quand même.
Oui, parce que je rappelle, vous êtes quand même né à Menton.
Oui, tout à fait.
Donc vous repartez sur la Côte d'Azur.
J'avais quand même, avant de je vous interromps,
je vous en prie,
Irène,
je vous en prie.
J'avais quand même travaillé un petit peu dans une radio là-bas à Paris. Radio oui. Libre à cette époque-là, c'était la grosse mode.
Oui.
Et puis...
Vous étiez animateur ?
Animateur, oui.
C'est quelque chose qui vous plaisait ?
Bon, je trouvais ça sympathique, oui.
Oui.
Je trouvais ça sympathique. Et puis je suis allé donc sur la Côte d'Azur. Et j'ai atterri à Saint-Raphaël, où j'avais un piédestal déjà. Un pied à terre plutôt. Les stalles, ça viendra après. J'avais un pied à terre et il y avait les radios libres là-bas aussi. Puis un soir, j'ai voulu aller en voir une. Il y avait une émission que je trouvais sympathique. J'étais moustachu à l'époque là, Et puis ils avaient un animateur qui arrêtait, qui était moustachu lui aussi.
Donc ça tombait.
Ça te dirait de faire de la radio avec nous ? J'ai dit, bah, écoutez, j'ai une voix qui passe apparemment assez bien au niveau radiophonique. m'a dit, bah si, on te prend. Et voilà. Et là, je suis resté plusieurs années, 7 à 8 ans, je crois, de radio, j'ai fait.
Et toutes ces années où vous avez été animateur radio donc à Saint-Raphaël, vous aviez complètement abandonné votre métier d'aide-soignant ?
Oui, là oui, parce que j'étais payé à plein temps, parce que je ne faisais pas que ce métier d'animateur aussi. Hein. Je faisais aussi du management d'animation en discothèque.
D'accord. Donc, un spectacle. Là, vous étiez vraiment, j'allais le dire, dans le monde du spectacle.
Ah oui, j'étais intermittent du spectacle. Ouais.
Et la radio, et les discothèques.
Tout à fait, oui.
Et alors ça a duré combien d'années ?
Ça a duré une dizaine d'années au moins.
Une dizaine d'années ?
Ah, oui.
Vous avez construit une famille ?
J'ai construit une famille, oui.
Des enfants ?
Avec trois filles.
D'accord. Donc trois filles.
Ophélie, Madison et Tiffany.
Ben, on les salue.
Moi aussi, évidemment. Je les embrasse.
Et donc, vos trois filles sont nées à Saint-Raphaël, je suppose. Vous restez une dizaine d'années.
Et 15 même.
Oui. 15 ans.
Oui.
Et après ?
Ça me revient en mémoire.
Et pendant toutes ces années où vous avez fait donc cette famille, où vous aviez une vie sur la Côte d'Azur, c'est quand même pas l'endroit le plus dégueulasse pour vivre. Vous avez fait de la radio, vous aviez déjà une vie, j'allais dire, à la fois bien rangée et à la fois assez... avec des
bien
choses...
Bien rangé, oui et non. Je travaillais la nuit, donc j'étais un personnage de la nuit.
Oui.
Je travaillais l'après-midi, parce que je faisais... En radio, je faisais le hit parade, voilà, qui s'appelait le jukebox. Mon émission s'appelait le jukebox. Et en début d'après-midi, j'avais une autre émission qui était plus de jeu. Et le soir, une fois par semaine, je faisais une émission thématique sur l'histoire du blues et de la musique en général jusqu'à notre époque, voilà.
Donc la musique a toujours été quelque chose de très important dans votre vie.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que je travaillais après le soir en discothèque. Donc c'était rentré très tard, très tôt même.
Mais vous dormiez quand ? Le matin ?
Le matin, voilà. Alors j'ai un peu moins profité de mes enfants le matin,
c'est
certain.
C'est ce que j'allais vous dire. Les puces, vous aviez moins de temps pour les voir.
Mais elles le comprenaient. Elles
le comprenaient et elles voyaient un papa épanoui par ses activités professionnelles.
Bien sûr, oui.
Donc ça, c'était l'essentiel.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes au niveau de la musique des autres. Qu'est-ce que vous aimez comme musique ?
Alors,
quels sont les chanteurs qui vous font vibrer ?
Alors, depuis l'âge de 16 ans, j'ai eu un chanteur qui m'a fait vibrer au niveau du rock'n'roll, c'est Johnny Hallyday. Parce qu'il avait un côté rebelle. J'ai découvert son album Flagrant Délit. Donc, quand on a 15-16 ans, Flagrant Délit, c'était énorme, quoi. c'était important. Après, bien entendu, on suivit tous les rockers, à commencer par Elvis Presley aussi. Et puis, petit à petit, j'ai découvert la musique parce que je suis pas axé sur un seul style de musique. Moi, j'aime bien découvrir. J'aime aussi la musique classique. Mozart, Beethoven, Chopin. Mais...
Vous n'avez jamais eu envie au cours de votre vie de reprendre le piano puisque vous en aviez fait 3-4 ans et que vous aviez certainement déjà des très bonnes bases pour essayer de faire un peu de classique hein.
Non.
Non, ce n'est pas quelque chose qui vous a attiré au
j'aime
cours de
écouter,
votre vie.
J'aime écouter le classique, mais j'apprécie.
Jouez-vous ? Non. Le travailler ? Non,
ce n'est pas pour moi. Je pense que dans la musique, il faut, on peut être un petit peu à tout va. Mais il faut quand même à un moment se compartimenter, c'est-à-dire que il y a des personnes qui écrivent des mélodies, il y a ensuite des techniciens, il y a des musiciens de classique qui sont très forts, mais qui sont très forts dans leur classique, et moi je leur laisse cette place, c'est pas la mienne. Voilà. Moi je suis plutôt dans la mélodie, dans la construction de la mélodie.
Mais justement, vous êtes dans la mélodie, et bien je vais vous proposer tout de suite une deuxième pause musicale. Et comme vous nous avez fait la surprise d'amener votre guitare, hein, je vous laisse nous jouer une de vos compositions.
Oula, c'est pas un petit peu trop fort là ? Voilà, on fait un petit réglage.
Allez, je vous en prie. Voilà.
Alors c'est une chanson que j'ai écrite aussi, qui est un petit peu différente. Voilà, si je devais me définir dans mon style, je dirais que je suis pop-rock latino, avec un petit peu de mon côté littéraire qui ressort de temps en temps. Celle-ci, cette chanson, j'ai eu cette idée d'écrire une chanson sur la musique. Pas sur la musique, sur les mots qui entourent la musique. Ça s'appelle « Je t'aime en harmonie ». Toujours l'amour, évidemment. Piano coulisse, note en gour et glisse, je prends la clé des champs sur un sol dansant. Je m'accroche au silence dans tes nuits en partance, dans ta démesure d'un accord pas si pur. Je t'aime en harmonie pour une autre mélodie, pour un rock qui fugue. Avec toi, je conjugue. Je t'aime en symphonie pour un rôle à l'infini. Sur un fond de pas de croche, je colle mon cœur dans ta poche. Claque la cadence dans ta dernière danse, tape la mesure d'une note en luxure. Les mots en arpège autour du solfège, dans la boîte à musique que je ferme d'un clic. Je t'aime en harmonie pour une autre mélodie, pour un rock qui fugue. Avec toi, je conjugue. Je t'aime en symphonie pour un rôle à l'infini, sur un fond de pas de croche, je colle mon cœur dans ta poche.
Merci Michel. Je voudrais également vous citer. Quand je vous avais eu au téléphone pour préparer cette émission, je vous avais demandé de m'envoyer un mail. Et je voudrais lire une phrase de ce mail.
Oula, j'espère que je n'ai pas raconté de bêtises.
À nos auditeurs.
Bientôt.
Non. Même après une séparation, il faut garder espoir, patience, respect dans l'amour que l'on peut donner. C'est un message, c'est mon message. Voilà ce que vous m'avez écrit. L'amour. L'amour, c'est le moteur de votre vie, j'ai l'impression. C'est le moteur de vos chansons.
C'est le moteur de la vie. Si on n'a pas d'amour, on ne peut pas vivre comme il faut. On a besoin. Il y a l'amour en tout. Il y a l'amour dans ce que l'on fait, l'amour dans ce que vous faites à la radio et ailleurs dans vos occupations. Il y a l'amour dans la vie, et puis il y a l'amour pour soi-même, et puis il y a l'amour pour ce que l'on peut donner aux autres. Et après, il y a l'amour pour la personne à qui l'on se donne. Et ça, cet amour-là est important. Je pense qu'on ne le considère pas suffisamment à notre époque. Alors qu'on veuille aller chercher les petites bêtes de ceci, de cela et tout, c'est bien joli. Mais parfois, restons simples, restons humbles, restons simplement dans l'amour. C'est tout. N'allons pas trop chercher ce qu'il n'y a pas à chercher. Mais respectons l'autre, autant l'un que l'autre.
Est-ce que toutes vos chansons parlent d'amour ?
Mais beaucoup, oui, beaucoup, parce que c'est un sujet. Alors, attention, ce ne sont pas toutes des chansons personnelles sur ma vie. Hein. C'est aussi des choses que j'ai glanées un petit peu partout, que j'ai pu observer, parce que j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, même si je parle beaucoup. Il m'arrive aussi de beaucoup observer. Le silence permet d'être là pour m'aider dans cette observation. Mais il y a beaucoup de gens tristes. Quand je rencontre des personnes, des hommes ou des femmes qui sont tristes, des femmes même qui sont avec des femmes ou des hommes qui sont avec des hommes, peu importe, c'est pas ce côté-là qu'il faut voir. Je vais au-delà de ça. C'est plutôt l'amour humain, l'amour entre êtres humains.
L'amour de l'autre.
L'amour de l'autre et le respect de l'autre.
Alors, je vous propose, Michel, de revenir à vos derniers jours sur la Côte d'Azur. Vous y passez donc 15 ans, et là vous refaites vos valises avec femme et enfant, et vous partez où ?
À Dax,
À Dax. Mm-hmm. D'accord. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'avais de la famille là-bas, donc sur Dax. Donc c'était un chemin, pourquoi pas. Mais la Côte d'Azur, j'en avais un petit peu assez. Moi, j'ai connu la Côte d'Azur à une autre époque.
D'accord.
Voilà. Je ne sais pas si vous aimez les petites anecdotes.
Mais, ah, mais avec plaisir.
Voilà. Mais écoutez, un matin, je suis allé acheter le pain, comme d'habitude, dans une boulangerie assez typique, on va dire, de Saint-Raphaël. Puis je leur ai demandé, une chose que j'aimais beaucoup, c'est des fougasses aux anchois. Voilà. Et ils m'ont dit, ben, on n'en a pas. Ah, j'ai dit, ah bon ? Dis non, on n'en a plus. Je dis, ah bon ? Dis non, on n'en fait plus. Comment ça, vous n'en faites plus ? Ben non, il y a des gens qui viennent de Paris, du Nord, de toutes les autres régions sur la Côte d'Azur. Eux, ils n'aiment pas ça. Ce n'est pas leur truc. Alors, on leur fait des trucs de chez eux. Mais vous perdez votre identité. C'est pas bien, ça. C'est pas bien, comme je l'aurais dit.
C'est assez étonnant, d'ailleurs.
C'est vrai. Et donc, si c'est pour aller chercher des fougasses dans les supermarchés, vous me direz au moins, ça m'a appris à les faire, parce que j'aime beaucoup la cuisine. Et... je dois tenir ça de mon père. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. J'ai commencé à regarder la Côte d'Azur sous un angle différent.
Oui, c'était reste... pour vous, c'était une Côte d'Azur qui commençait à basculer dans autre
oui,
chose.
Tout à fait, tout à fait.
Et vous étiez déçu de ça.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Donc vous venez...
Il ne suffit pas d'une fougasse pour vous décevoir.
J'imagine, j'imagine que c'était un ensemble de choses.
Voilà.
Vous arrivez à Dax. Qu'est-ce que vous faites professionnellement parlant en arrivant à Dax ?
Je m'occupe de mes enfants.
Ah, ça, c'est le plus beau métier du monde.
Oui. Ben oui, j'ai toujours été un petit peu en avance pour certaines choses. J'étais père au foyer, on va dire. Voilà. Donc, c'est un très lourd travail aussi. Je m'occupais de... dans les écoles, tout le monde me connaissait. Hein. Ça, c'était dans les réunions, tout le monde me connaissait. Les profs, tout le monde me connaissait. J'étais connu de partout.
Et toutes ces années-là, vous avez continué à écrire ?
Oui. J'ai toujours eu un classeur dans lequel je mettais les choses.
Vous avez tout consigné ?
Tout consigné, bien entendu. Mais parfois, j'écris des choses qui sont... Quoi, c'est deux phrases, quatre mots, un mot. Voilà. J'ai envie de... Il faut que je jette...
Il faut que ça sorte, voilà, suivant une situation, voilà, une envie,
ça,
etc.
C'est ça. Je dois reconnaître que parfois, il m'arrive de me servir de cette façon d'écriture pour me faire une espèce de psychanalyse. Soyons honnêtes, je conseille à tout le monde de faire ça. C'est bien. Voilà.
Quelle est l'activité, quel est le quotidien de Michel aujourd'hui ? Et d'abord, Michel, où habitez-vous maintenant ? Parce que là, je crois qu'on a tous bien compris que vous étiez un petit peu un globe-trotteur. Vous avez vécu un peu dans toutes les villes de France. Vous vous êtes posé où maintenant ?
Toujours à Dax.
Vous êtes toujours à Dax. Voilà. Donc depuis Dax, vous êtes resté à Dax.
Voilà, pour l'instant, oui.
Pour l'instant, donc ça...
Je ne sais pas, pourquoi pas ?
Alors,
pourquoi se cantonner à ce... Si je trouve quelque chose de bien, qui peut m'apporter du bien ailleurs, pourquoi pas ?
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
De la chanson.
De la musique. Un album en préparation ?
Alors, un album en préparation, oui, bien sûr.
Il y a déjà Alors, c'est important d'en parler.
Trois, quatre titres qui sont déjà bien placés.
Oui.
Celui que je vous ai fait écouter tout à l'heure, ce que vous avez eu le plaisir de me passer, c'est Si tu restes. Et c'est le dernier, le petit dernier, qui est un peu particulier. Je le trouve particulier moi-même.
Il a l'air de vous tenir à cœur.
Il me tient à cœur, oui, bien sûr, comme tout ce que j'écris, ça me tient à cœur. C'est à chaque fois que l'on finit un enregistrement, c'est comme un petit bébé, quoi. C'est comme un accouchement. Est-ce que c'est pour aider les dames vont être révoltées d'entendre ça. Mais c'est incroyable. On a le trac, on ne sait pas, on se dit ça va marcher, ça va pas marcher. Je suis comment ? Là, j'ai pas bien fait. J'ai un côté un peu perfectionniste, donc c'est terrible.
Il est prévu pour quand cet album ?
Alors, pas pour l'instant. Je vais un peu à l'envers et j'ai toujours été un petit peu à l'envers des autres. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de me faire connaître, dans un premier temps, et de jouer surtout la modernité, c'est-à-dire les réseaux sociaux et après les concerts, que je vais commencer d'ailleurs pas plus tard que la semaine prochaine. Et à Mont-de-Marsan, voilà.
Vous faites un concert à Mont-de-Marsan la semaine prochaine.
Voilà.
Ça, c'est intéressant.
Voilà.
Mais vous avez d'autres dates de prévues ?
Alors, il y a des dates qui sont en cours.
Et alors, on peut trouver les informations quelque part ?
Alors, vous pourrez trouver les informations déjà sur Facebook, sur Michel Maestent.
Alors, épelez-nous, s'il vous plaît, si nos auditeurs ont envie de venir vous écouter, qu'on puisse au moins voir vos dates.
Déjà, ils pourront aller sur Facebook.
Oui.
Et Michel, M-I-C-H-E-L.
Oui.
Et Maestent, du prénom Mike,
oui.
M-I-C-K-S-T-E-N-T.
D'accord. Ah. Okay.
Ou donc, Michel Stent, voilà, comme vous voulez.
Alors, une première date à Mont-de-Marsan. Mm-hmm. Rappelez-moi la date.
C'est le 21, mais c'est complet déjà. Donc,
D'accord.
C'est même plus envisageable de voilà, c'est terrible, quoi.
Il faut se rendre sur Facebook pour avoir les dates suivantes.
Voilà, c'est ça, ouais.
D'accord. Une petite tournée, donc.
C'est prévu, oui, bien sûr, j'envisage une tournée, voilà.
Okay.
Alors, je vais utiliser deux formules. Les musiciens sont très difficiles à trouver, malheureusement. Je fais un appel aussi, c'est terrible. J'ai décidé de faire deux principes. Ou de passer en style gala, on va dire, avec mes instrumentaux, et chanter en direct sur mes instrumentaux, ou de passer après dans des scènes un peu plus importantes avec un groupe. Voilà, ça sera deux formules que je vais installer. Et ensuite viendra l'album.
D'accord.
J'ai une formulation un peu différente, mais qui m'a été conseillée par quelqu'un du métier. Et je pense que c'est la bonne idée. Si c'est faire un album pour faire un album, ça ne m'intéresse pas. Je connais un musicien qui m'a parlé l'autre jour. Il m'a dit, ah, moi, j'ai fait mille pressages d'albums et tout, je suis content et tout. Il me dit, c'est pas facile à vendre. Tu en as vendu combien ? Ça fait combien de temps ? Il me dit, ça fait presque un an et tout. Tu en as vendu combien ? 160. Ah, mais je suis content, j'ai fait un album. Si c'est pour faire un album, ça ne m'intéresse pas, quoi.
Oui, vous trouvez l'intérêt ailleurs.
Voilà, l'album viendra. Mais le public d'abord. Tout passe d'abord par le public. On doit faire passer un message. Moi, mon message, c'est celui de l'amour, déjà dans un premier temps.
Bien sûr.
Et ce sera peut-être aussi de la révolte, parce qu'il y en a toujours aussi.
Est-ce que vous nous chanteriez une autre de vos compositions ?
Alors, j'avais peut-être souhaité que l'on puisse réécouter notre...
On la réécoutera.
On la réécoutera
à la fin, mais j'ai envie d'écouter une autre de vos compositions.
Alors, je pourrais vous proposer une chanson un peu plus drôle, on va dire. Un peu plus drôle, parce que je ne fais pas que dans choses un peu sérieuses et tout, et que l'amour, le bisounours et tout. Oh là 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 là, c'est pas terrible et tout, on s'ennuie un peu avec lui, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça. Mais non, c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rire et l'humour qui me tient à cœur. Je me souviens, voilà, un ami, voilà, quelques années, m'avait dit, dans la vie, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Cette chanson... Ça s'appelle « Dis-moi, oh ». En un moment de passage, je cale ma vie sur la tienne. Tu es si belle dans ce visage, tu danses comme une tahitienne. Tu viens chez moi pour t'amuser, comme un rayon de l'arc-en-ciel. Pour te changer les idées, sans jouer à la superficielle. Dis-moi le « oh » que tu me fais. Dis-moi le « ouh, 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 ouh » on le refait. Dis-moi le « oh » que tu me fais. Dis-moi le « ouh, 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 ouh » on le refait. Le temps d'un petit déjeuner ou d'un goûter amélioré. Après, il faut se rhabiller, laisser le lit tout chahuté. Dis-moi le « oh » que tu me fais. Dis-moi le « ouh, 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 ouh » on le refait. Dis-moi le « oh » que tu me fais. Dis-moi le « ouh, 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 ouh » on le refait. Dis-moi le « oh » que tu me fais. Dis-moi le « ouh, 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 ouh » on le refait. Dis-moi le « que tu me fais. » Dis-moi le ouh, 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 ouh. On le refait plus maintenant.
Voilà. Merci beaucoup Michel.
C'est mon humour.
Je vois également Vous m'avez indiqué sur votre mail que vous avez deux romans en écriture et un scénario de film.
Oui.
Racontez-moi ça.
Il y a des choses que l'on ne peut pas mettre en chanson. Et il y a des fois, j'ai envie d'écrire. Encore, toujours. Et là, par contre, je n'écris pas sur papier, j'écris directement sur l'ordinateur. Puis un jour, il m'est venu comme ça, une idée. Je me suis dit, tiens, je vais la mettre sur... Tiens, ça ferait bien un livre. Tiens, ça ferait bien... Tiens, une espèce de roman. Oui. Ah, puis je suis parti. J'en ai écrit plusieurs pages. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Je l'avais fait lire à une amie, elle me dit, oh, c'est bien, faut continuer et tout, c'est intéressant, c'est prenant et tout. D'accord, ok. Bon, mais je vais continuer. Voilà, puis c'est parti. Donc, j'ai deux romans en travail, en écriture. Et puis, une fois, j'étais comme ça, ça tourne beaucoup dans ma tête. Et puis, j'étais là comme ça, et puis je me suis dit, tiens, ça serait pas mal d'en faire un film et tout. Ah oui, mais je verrais ça comme scénario. Tiens, comment est-ce qu'on fait un scénario? Je ne connaissais pas l'écriture de scénario. Ah, je me dis, allez, je vais me renseigner un petit peu. Je me suis renseigné, je dis, bah tiens, je vais commencer un petit peu. Et j'ai commencé à écrire l'écriture d'un petit scénario, voilà.
Donc, beaucoup de choses, que de projets.
Mais j'avoue que je mens. Je mens sur une chose, j'avais déjà écrit des nouvelles.
D'accord, ça vous n'en aviez pas parlé, quand vous étiez plus jeune.
Voilà, quand j'étais en radio, sur la Côte d'Azur.
Oui.
J'avais fait une émission sur une... C'était un dimanche après-midi. On m'avait demandé d'écrire... de faire de la chanson française et puis d'écrire une petite histoire. Et j'écrivais des nouvelles. Donc, tous les dimanches, j'avais mon histoire. Voilà. Que j'écrivais, comme ça. Et puis, voilà.
Donc, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui vous a accompagné tout au long de votre vie. Quelle que soit votre ville ou votre métier, vous avez été toujours dans l'écriture. Alors, soit de la chanson, soit des nouvelles, soit d'un éventuel roman.
L'écriture et puis l'envie d'écrire. Je peux écrire comme ça ou même vous faire un poème.
C'est une seconde nature chez vous.
Ah ouais, pas de problème. Pour vous, Irène, ça sera sans aucune peine. Ça, c'est,
merci.
C'est évident. C'est évident. Ce que je veux dire, c'est que c'est même dans mon parler, il m'arrive parfois de faire des choses, de penser des choses, d'écrire des choses, déjà en parlant, je n'ai plus qu'à les retranscrire.
Oui, c'est très naturel chez
voilà,
vous. C'est
tout
ça.
À fait. Ouais. Et... Un ami musicien, l'autre jour, est passé me voir, il m'a dit, mais t'as écrit une chanson, mais t'as pas fait une seule rature? Je dis, ben non, j'ai écrit rapidement. Mais bon, si, là, t'as fait une rature sur une majuscule, c'est pas une rature, ça. Ben, je dis, si, quand même. Il me dit, non. Il me dit, moi, je fais un truc et je mets 5 pages pour faire ce que tu as fait. Voilà.
Quel musicien vous écoutez aujourd'hui?
Il y a des musiciens qui m'ont beaucoup marqué. On n'en a pas parlé tout à l'heure. C'était aussi David Bowie.
Oui.
Michael Jackson, par la force de son écriture, parce qu'il a réalisé surtout. Prince, ça c'est dans les chanteurs étrangers. Dans les chanteurs français, il y en a un qui m'a énormément marqué, c'est Brassens. Brel et Brassens, assez récemment.
Ah oui, sur le tard.
Oui, tout à fait. C'est en voyant le film de sa vie que j'étais inspiré. Je me suis dit, tiens, mais c'était qui ce bonhomme? J'étais plutôt fan de Brel que de Brassens. Et puis, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, que ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup, et ça me fait bouillonner.
Voilà, c'est des choses que vous écoutez actuellement.
Oui, oui.
Comme quoi, il n'y a pas de... C'est jamais... C'est intemporel, un chanteur, hein, au final.
Oui, complètement, mais j'écoute aussi les chansons de maintenant, j'écoute Maître Gims aussi, hein. Faut bien se mettre au courant.
Oui, alors là, non, moi, je ne suis pas au courant, je ne connais pas du tout.
C'est en commentaire. Mais c'est bien pour les jeunes, c'est bien.
En tout cas, Michel, je vous remercie d'être venu jusqu'à Toulouse pour enregistrer cette émission dans notre studio. J'étais très contente de vous découvrir. Effectivement, la première chanson que vous nous avez offerte, qui est donc très récente, puisque vous l'avez indiqué, elle a été terminée hier ou avant-hier, il me semble. Je vous propose de la réécouter pour clôturer cette émission. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et
c'est
j'espère
gentil,
qu'on va pouvoir vous entendre sur scène très rapidement et pourquoi pas à Toulouse.
J'espère, j'espère. En tout cas, je vous remercie de votre accueil, pour vous, mais également pour votre technicien.
Oui, Jean-Loup, merci beaucoup.
Je n'oublie jamais les personnes qui sont dans les équipes, parce qu'on n'est pas que là uniquement au micro, il y a aussi ceux qui travaillent derrière, ce n'est pas toujours facile.
Et oui, et Jean-Loup Arzac qui me supporte 2 ou 3 fois par semaine.
Ah bon, à ce point-là.
Il n'en peut plus, le pauvre.
En tout cas, merci Irène de votre accueil. J'ai trouvé aussi cette interview très très sympathique.
Merci, à bientôt, au revoir Michel.
À bientôt, au revoir.
Si tu restes, le soleil viendra dans la maison. Avec toi, je changerai les mots en émotions pour que tu sois comme un rêve d'une nouvelle chanson. Si tu restes, si tu restes, je bâtirai des palais de diamants. Avec toi, je serai le meilleur des amants pour que tu sois la principale actrice de ton roman. Si tu restes, si tu restes, je laisserai aller tes cheveux dans le vent. Avec toi, ce sera toujours comme un nouveau printemps. Pour que tu sois la plus belle au sourire si touchant. Si tu restes, si tu restes, je donnerai de la couleur au noir et blanc. Avec toi, je ferai une montagne de rêves pour les petits enfants. Pour que tu sois le parfum des fleurs de tous les temps. Si tu restes, si tu restes, je veux de toi un bouquet de passion. Avec toi, je partirai pour toutes les missions. Pour que tu sois dans le bonheur, sans rémission. Si tu restes, si tu restes. Si tu restes. Je planterai pour toi la rose des vents. Avec toi, j'éblouirai tes pas à chaque instant. Pour que tu sois ma première pensée au matin levant. Si tu restes, si tu restes, je mettrai dans ta main tous les plus beaux baisers. Avec toi, je ferai une loi pour te mériter. Pour que tu sois à chaque instant fier du verbe aimer. Si tu restes, si tu restes, si tu restes, si tu restes.